VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 1er juin 2017. Au Niger, opération de ratissage près de la frontière malienne après la mort de 6 soldats dans une attaque à Abala. 44 migrants retrouvés morts de soif dans le désert dans le nord du Niger. Au Mali, plusieurs soldats français blessés dans une attaque au mortier à Tombouctou. 200 ONG appellent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à enquêter sur les violences au Kassaï en RDC. Kaboul encore plongé dans la stupeur au lendemain de l'attaque ayant fait plus de 90 morts. Et grand suspense jusqu'à 19h temps universel, Donald Trump annoncera si les États-Unis quittent l'accord sur le climat. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. 6 soldats ont été tués hier soir au Niger lors d'une attaque d'islamistes armés à Abala, dans la région de Tillabéri, près de la frontière malienne. Jacques Aristide.
Ce sont des hommes lourdement armés venus à bord de 14 voitures tout terrain qui ont attaqué la position militaire dans cette ville. Des combats étaient toujours en cours ce jeudi dans l'après-midi entre des djihadistes présumés et les troupes nigériennes. Des avions militaires sont engagés dans les opérations de ratissage et de poursuite. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a assisté ce matin à Abala à l'enterrement des victimes. Il s'agit de 4 membres de la garde nationale et deux gendarmes. La ville abrite un camp de réfugiés maliens et fait partie des zones de Tillabéri et Tawa que Niamey a placées en mars dernier sous état d'urgence en raison d'attaques récurrentes. La semaine dernière, 2 policiers et un civil ont été tués dans une attaque contre un poste de police. Les autorités ont récemment fermé une dizaine de marchés ruraux et interdit la circulation de voitures et motos dans ces régions proches du Mali et du Burkina, pour empêcher les infiltrations des terroristes.
Toujours au Niger, au moins 44 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région d'Agadez. Cette zone du nord du pays est une plaque tournante du trafic d'êtres humains voulant quitter l'Afrique. Pour lutter contre les trafiquants, une loi a été votée en 2015, rendant leurs crimes passibles de peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Au Mali, plusieurs soldats français ont été blessés, dont un grièvement, ce jeudi à Tombouctou, dans une attaque au mortier contre le camp de l'ONU, a annoncé l'état-major français. Les blessés ont été pris en charge par les structures médicales de la MINUSMA et de la force Barkhane, toutes deux stationnées à l'aéroport de Tombouctou. L'autorité de régulation des médias du Rwanda a estimé que la commission électorale n'avait pas le mandat de contrôler sur les réseaux sociaux les publications de campagne des candidats à la présidentielle d'août. Une mesure qui avait été critiquée comme une atteinte à la liberté d'expression. La commission électorale nationale a récemment publié une directive prenant effet à partir du 14 juillet, date du début de la campagne pour le scrutin du 4 août, obligeant tous les candidats à lui soumettre au moins 48 heures avant tous les messages photographiques ou autres matériels de campagne qu'il souhaite publier sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité. Plusieurs ONG congolaises et internationales ont appelé ce jeudi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à lancer une enquête sur les violences meurtrières commises depuis septembre au Kassaï en RDC. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies devrait d'urgence établir une commission d'enquête sur la situation dans la région centrale du Kassaï, écrivent dans un communiqué plus de 200 organisations dont Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l'homme. En Égypte, 3 officiers et un soldat ont été tués mercredi par l'explosion d'une veste piégée laissée par des combattants dans le désert du Sinaï, a indiqué l'armée dans un communiqué. La mort des 4 militaires est intervenue quelques jours après l'embuscade revendiquée par le groupe État islamique ayant coûté la vie à 29 chrétiens dans le centre du pays. 4 personnes ont été arrêtées et déférées au Sénégal à la suite de la diffusion d'une image sur les réseaux sociaux jugée offensante pour le président Macky Sall, une journaliste de télévision privée locale, un commerçant et un artiste font partie des personnes arrêtées selon les médias sénégalais. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. La police de Zanzibar a arrêté un jeune homme soupçonné d'être l'auteur d'une attaque au couteau ayant fait plusieurs blessés, dont 4 touristes étrangers, dans un restaurant de l'archipel tanzanien, ont annoncé les autorités. Après avoir fait irruption dans le restaurant, l'assaillant avait poignardé 6 personnes, dont un Français blessé au visage, qui est toujours à l'hôpital. 4 Tunisiens ont été condamnés à 1 mois de prison pour outrage public à la pudeur après avoir mangé dans un jardin public pendant le Ramadan à Bizerte. Cette condamnation intervient alors qu'un collectif d'ONG a appelé les autorités à respecter leur devoir constitutionnel de garantir la liberté de conscience et qu'un appel à manifester le 11 juin a été lancé pour réclamer le respect des libertés individuelles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain de l'attentat qui a fait 90 morts en Afghanistan, Kaboul est encore plongé dans la stupeur. Jusqu'ici, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Le point avec Eki Abadou.
Plusieurs groupes sont susceptibles d'être les auteurs. Les talibans ont nié toute implication. Des djihadistes pakistanais présents sur le territoire afghan, dont les talibans pakistanais Laskar el-Taiba et Harkat ul-Mujahideen sont jusque-là restés silencieux. Le groupe État islamique est présent, composé essentiellement d'ex-talibans ou d'anciens combattants d'Al-Qaïda, mais aucun de ces groupes n'a ouvertement ni implicitement revendiqué l'attentat de Kaboul. L'explosion d'un camion piégé hier matin a fait plus de 90 morts et au moins 320 blessés en ce mois de Ramadan. Au lendemain de cette attaque meurtrière, Kaboul est toujours plongé dans la stupeur. Cette fois-ci, les auteurs ont réussi à pénétrer dans le quartier le plus sécurisé de la capitale afghane nommé Zone Verte, qui abrite ambassades, ministères et palais présidentiels.
Le président américain Donald Trump fera connaître à 19h temps universel sa décision sur le retrait ou non des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Yacouba Ouedraogo.
Pendant sa campagne, Donald Trump avait promis de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat signé par plus de 190 pays. Pékin et Washington, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ont été parmi les architectes. L'accord de Paris conclu fin 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète et ses effets dévastateurs. La question a divisé pendant le récent sommet du G7 en Sicile. Les leaders des pays riches, à l'exception du président américain, avaient réaffirmé leur engagement envers ce texte. Donald Trump, qui va parler ou tweeter ce soir, pourrait invoquer l'article 28 de l'accord de Paris. Il permet aux signataires de revenir sur leur engagement, mais en raison de la procédure, si la sortie a lieu, elle ne sera effective qu'en 2020. Alors, quittera ou quittera pas, la réponse dans un instant à 19h, temps universel.
Et Angela Merkel a jugé ce jeudi essentiel l'accord de Paris. Il s'agit, selon moi, d'un traité essentiel, a déclaré la chancelière allemande à la presse à Berlin, soulignant que son pays continuerait naturellement à mettre en œuvre ses dispositions et qu'elle attendait désormais la décision de Donald Trump. Le président américain Donald Trump a renoncé pour l'instant à transférer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, a annoncé la Maison-Blanche.
Donald Trump a signé une clause dérogatoire ordonnant de conserver l'ambassade américaine à Tel Aviv pour 6 mois supplémentaires. Tous les présidents américains depuis la fin des années 90 ont signé cette dérogation de 6 mois. Le président Trump a pris cette décision pour maximiser les chances de négocier un accord entre Israël et les Palestiniens, a expliqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Donald Trump a plusieurs fois fait part de son intention de déménager l'ambassade, mais il n'a jamais avancé de date. Les Palestiniens, des dirigeants arabes et même l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry ont mis en garde contre le risque d'explosion de violence si l'ambassade américaine était transférée à Jérusalem.
Un sujet commenté par John Lydon. Et les Palestiniens ont salué la décision de Donald Trump, tandis qu'Israël s'est déclaré déçu, tout en disant apprécier son engagement à déménager l'ambassade à venir. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre des fournisseurs du programme d'armement de la Corée du Nord. Ces sanctions visent la société russe Ardis Bearings et son directeur Igor Michourin, qui approvisionne l'entreprise nord-coréenne Tangun, déjà sanctionnée en 2009 pour son implication dans les programmes d'armement de Pyongyang. La société pétrolière russe indépendante Petroleum Corporation Company est aussi visée, ainsi qu'une de ses filiales. Et une gigantesque explosion a secoué ce jeudi la ville chiite de Qatif dans l'est de l'Arabie Saoudite, cible d'attentats meurtriers revendiqués par le groupe État islamique, a indiqué un témoin. Aucune indication officielle n'a été donnée dans l'immédiat sur l'origine de l'explosion ou sur d'éventuelles victimes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Tchad, 12 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État en guise de subvention à la Coton Tchad Société Nouvelle. Selon APA News, 9 milliards seront versés aux cotoculteurs pour la campagne de l'année dernière et le reste sera injecté dans la commercialisation du coton pour cette année. Principal acheteur du coton dans le sud du pays, Coton Tchad Société Nouvelle s'était vu refuser un crédit auprès du pool bancaire qui finance chaque année la campagne agricole à cause d'impayés estimés à 30 milliards de francs CFA. Corridor Yaoundé-Brazzaville, le Japon vient de débloquer 33 milliards de francs CFA pour la dernière phase des travaux. Louis-Paul Motazé, le ministre camerounais de l'économie, a signé hier le prêt concessionnel. Le coût total du projet est de près de 105 milliards de francs CFA, cofinancé notamment par le Cameroun à hauteur de 14 milliards et de la BAD pour 40 milliards. Un projet pilote sur la gouvernance foncière inclusive a été expérimenté avec succès en Côte d'Ivoire. Mené par le CERAP et l'animation rurale de Korogo, ce projet est axé sur la résolution durable des conflits fonciers entre les communautés rurales et la sécurisation du foncier.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Coupe du monde des moins de 20 ans, fin de parcours pour le Sénégal.
Une défaite 1-0 en toute fin de match face au Mexique en 8e de finale. Il s'agissait d'une opposition entre les deux plus mauvaises attaques parmi les pays qualifiés pour le second tour. Un match terne où les Lyonceaux ont joué à 10 après le carton rouge reçu par Alioune Gay et les Aztèques accentuaient encore leur domination stérile jusqu'à la 89e minute et le jaillissement victorieux de Ronaldo Cisneros. Qualification également des Américains pour les quarts de finale après la gifle infligée aux Néo-Zélandais 6-0. Dans le duel européen de la journée, l'Italie s'impose 2-1 contre la France. Les Italiens rencontreront la Zambie en quart de finale. On rappelle que la Zambie est le dernier représentant africain encore en lice dans cette compétition.
L'heure des choix pour le nouveau sélectionneur algérien.
Quelques semaines après sa nomination au poste de sélectionneur de l'Algérie, Lucas Alcaraz a communiqué une liste de 25 joueurs retenus pour le match amical contre la Guinée et la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Togo. Absent de la CAN 2017 au Gabon, Karl Medjani et Sofiane Feghouli font leur grand retour au même titre que Mehdi Zéphane, disparu de la circulation depuis plusieurs mois et qui n'a joué qu'un seul match en Ligue 1 cette saison avec Rennes. La principale nouveauté de cette liste, c'est la première convocation d'Ilyes Hassani, le défenseur de Vereya en Bulgarie.
Un gros transfert en Angleterre.
Le Benfica Lisbonne et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert du gardien brésilien Ederson Moraes qui rejoindra l'équipe de Pep Guardiola pour 40 millions d'euros. Le montant de l'opération fait de ce joueur de 23 ans le gardien le plus cher de l'histoire après Gianluigi Buffon, acheté par la Juventus Turin à Parme en 2001 pour un peu plus de 52 millions d'euros.
Et la vidéo plébiscitée par la FIFA ?
L'arbitrage vidéo que la FIFA espère introduire lors du Mondial 2018 est bon pour l'honnêteté dans le football. C'est ce qu'a estimé l'ancien joueur Marco Van Basten, qui est le responsable du développement technique de l'instance. Le board a autorisé en mars 2016 l'arbitrage vidéo à titre expérimental et doit se prononcer sur son adoption définitive en mars prochain. Mais en avril déjà, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a assuré que cette nouvelle technologie serait utilisée lors du Mondial 2018 car, je cite, « nous n'avons que des retours très positifs ».
On termine par le grand rendez-vous NBA, c'est ce soir Nicolas.
La grande finale entre Golden State et Cleveland, ce sera ce soir, premier match en Californie. Cleveland champion en titre contre les Warriors champions 2015, Stephen Curry contre LeBron James. Ce sont les duels à suivre ce soir.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Retour sur ce nouveau drame de l'immigration. Au moins 44 migrants, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés morts dans le désert d'Agadez au Niger. Ces personnes qui tentaient de se rendre en Libye sont mortes de soif suite à la panne de leur véhicule. 300 000 migrants ont transité par cette région en 2016, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, qui a ouvert un nouveau bureau. Claire Moragibour a joint Benoît Moreno, chargé des relations extérieures du HCR à Niamey.
Une fois de plus, nous sommes en face à un nouveau drame qui se produit dans le désert nigérien. On parle de plus de 40 personnes. Ce qu'il faut voir aussi en perspective, c'est que depuis le début de l'année, il y avait déjà eu 13 opérations de secours menées par l'OIM et les forces de sécurité nigériennes qui ont sauvé plus de 400 personnes. Donc voilà, on est en face d'une situation qui doit être abordée comme peut-être une urgence humanitaire. Je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas avoir peur des mots. Les risques qu'offrent la traversée du désert ne sont peut-être pas comparables aux risques qu'offrent la traversée de la Méditerranée, et aussi parce qu'ils sont très mal connus. Donc, il faut aborder ça comme une situation humanitaire au sens clair et avoir des réponses collectives appropriées dans le cadre de toutes les politiques de lutte contre l'immigration illégale.
Le HCR a ouvert un nouveau bureau à Agadez. Pourquoi et qu'est-ce que vous y faites exactement ?
L'ouverture du bureau du HCR à Agadez vise à se rapprocher un petit peu de l'épicentre du flux de migration mixte. Bon, épicentre, bien sûr, qui se déplace aussi en fonction des nouvelles routes qui peuvent se dessiner en réponse au programme de lutte contre la migration illégale. En tout cas, il est important pour nous d'être à Agadez pour mieux comprendre la situation, pour mieux communiquer surtout dans le flux de migrants avec les personnes qui pourraient être des potentiels demandeurs d'asile. Parce que quand on regarde les statistiques des demandes d'asile en Europe, c'est-à-dire les statistiques des États membres de l'Union européenne, on s'aperçoit que parmi les personnes qui traversent le Niger, beaucoup reçoivent le statut de réfugié en Europe. Donc on n'est pas dans une problématique uniquement d'immigration, mais on dit bien d'immigration mixte, parce que certains qui font le choix de rejoindre l'Europe peuvent prétendre au statut de réfugié. Donc notre travail ici, c'est de travailler de très près avec les autorités nigériennes pour les accompagner aussi dans l'identification, la détermination du statut de réfugié. Ça, on commence, mais on a espoir parce que les autorités nigériennes sont assez engagées aussi en termes de protection internationale. Malgré les enjeux sécuritaires, elles ont tout le temps respecté leurs engagements internationaux envers les populations réfugiées. On se rapproche d'Agadez aussi pour travailler plus près avec OIM. Les engagements globaux qu'il y a actuellement entre la HCR et l'OIM, notamment comme on a pu le voir récemment avec la Libye. On se rapproche du terrain, on renforce notre connaissance et en espérant très très vite mieux communiquer et mieux identifier les potentiels réfugiés dans le flux de migrants.
Benoît Moreno est porte-parole du HCR au Niger.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Au Rwanda, l'autorité de régulation des médias a estimé que la commission électorale n'avait pas le mandat de contrôler sur les réseaux sociaux les publications de campagne des candidats à la présidentielle d'août. Une mesure en ce sens a été critiquée comme une atteinte à la liberté d'expression. Pour une réaction, Solange Nyamulisa a joint Jean-Claude Ntezimana, secrétaire général du Parti démocratique vert.
La Roua et son Rwanda a fait une communiqué disant que la Commission électorale nationale du Rwanda n'a pas la compétence de régler et de poursuivre ces communiqués sur les médias sociaux. Donc, c'est la responsabilité de l'OIM.
Pourquoi la Commission électorale nationale veut voir à l'avance les messages qui seront publiés sur les réseaux sociaux par les candidats pendant la campagne électorale?
C'est vraiment une chose étonnante parce que Jusqu'à maintenant, même le ministre des Affaires étrangères, Mme Louise Moshichiwaro, a dit qu'il n'accepte pas ce que la Commission électorale nationale a dit. Mais jusqu'à maintenant, pour nous, pour le parti de Rwandais du Rwanda, nous disons que ça ne suffit pas ce que le ministre a dit. Jusqu'à maintenant, le gouvernement montre qu'il n'est pas pour, avec le communiqué de la Commission électorale nationale du Rwanda. Mais c'est écrit dans leur règlement qui concerne les élections, qui veut dire que ce qui est bon, c'est de changer tous les écrits qui étaient là, donc, parce que les écrits sont valables plus que les paroles.
Donc, vous voulez dire que cette décision est toujours valide tant qu'elle reste écrite, c'est ça?
Oui, les décisions de la commission électorale sont écrites, ce sont des lois qui doivent arrêter les candidats qui étaient aussi arrêter la liberté d'expression pour les citoyens du Rwanda. Ça, ça concerne les élections. Ça veut dire que ce qui est mieux, c'est de changer tout pour les lois et les règlements qui ont été déclarés, qui sont écrits dans les livres. En changeant toutes ces lois et les règlements, ça sera une bonne décision. Même la Commission électorale nationale du Rwanda, jusqu'à maintenant, ils n'acceptent pas ce qu'ils ont dit. Alors que ce sont des choses qui sont écrites, qui sont là.
Et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette décision?
Comme le Parti démocratique du Rwanda, on avait déclaré que si le gouvernement ne change pas, ou bien la Commission électorale nationale, qu'on peut même porter une plainte dans le tribunal du Rwanda. On était en train de consulter les avocats pour voir comment on peut poser donc notre plainte.
Est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite par rapport à la publication des photos de la candidate Diane Shima Rwigara?
Enquête faite par qui? Par Diane Shima ou bien par l'État?
Disons par l'État.
Non, il n'y a pas cette enquête maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait une chose pareille comme ça.
Jean-Claude Ntezi Mana, secrétaire général du Parti démocratique vert au Rwanda.
Ce soir, dans votre avis, votre programme est interactif, le drame migratoire qui n'en finit pas. Au moins 44 migrants, dont des bébés, retrouvés morts en plein désert dans la région d'Agadez, dans le nord du Niger. Ils tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe à la quête d'une vie meilleure. Que pensez-vous de ce drame? N'est-ce pas possible de faire la vie chez soi malgré les difficultés? Retrouvez Eric Manilakiza à 18h temps universel. Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33. Rendez-vous sur VOA Afrique.
Démenti catégorique de l'Église catholique malienne suite à la publication par les médias de documents SwissLeaks selon lesquels trois de ses dirigeants, dont l'archevêque Jean Zerbeau, récemment nommé cardinal, auraient entretenu des comptes bancaires en Suisse pendant des années. Ces comptes auraient été crédités de 12 millions d'euros en 2017. Dans un communiqué, la conférence épiscopale malienne a rejeté les allégations de détournement de fonds des fidèles catholiques par le clergé. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à Bamako notre confrère Alexis Calambry du journal Les Échos.
L'Église a effectivement dit que c'est des allégations mensongères et ils ont clairement dit qu'ils n'utilisent pas l'argent sale pour prêcher la parole de Dieu. Donc là, c'est vraiment clair dans le communiqué qu'ils ont publié.
Est-ce qu'ils ont expliqué le bien fondé de ce compte en Suisse?
En fait, je pense que le débat est faussé dès le départ. Ceux qui ont fait l'article ont précisé que c'est un compte qui a été fermé il y a 10 ans. Donc, où est la valeur informative d'un tel texte?
Y aura-t-il d'autres réactions de l'Église en dehors du communiqué de mercredi?
Oui, il y a énormément de réactions à Bamako. On a un peu lié tout cela au fait que l'archevêque de Bamako vient d'être créé cardinal par le pape. Donc, on essaie de le salir le plus possible. Sinon, vraiment, un prêtre va planquer de l'argent. Pourquoi? Pour ses vieux jours, il est pris en charge pour sa famille. Il n'a pas d'enfant à hériter de lui. Tout ce qu'il possède, si jamais il possède quelque chose, revient à l'Église à son décès.
Comment les Maliens réagissent-ils à cette controverse?
Non, mais sans distinction de confession, certes, il y en a qui étaient assez dubitatifs, mais en général, les Maliens ont été très choqués et très indignés par cette volonté manifeste de salir toute la communauté.
Qu'en est-il des catholiques maliens?
Alors, les chrétiens se réunissent pour voir comment réagir, quelle est l'attitude à apporter, mais dans tous les cas, spontanément, tout le monde a apporté son soutien aux clercs et à ses responsables.
C'était Alexis Calambry du journal Les Échos à Bamako, au Mali.
Non, ce n'est pas une caricature qui a été publiée dans WhatsApp, c'est un photomontage.
Au Sénégal, une enquête a été ouverte à la suite de la diffusion d'une image jugée offensante pour le président sénégalais Macky Sall. Une jeune femme et trois autres personnes ont été arrêtées. Certains affirment que c'est pour une caricature. Cette affaire fait la une de la presse locale. Pour en savoir davantage, Idriss Fall a joint Alassane Samba Diop, directeur de Radio FM à Dakar.
Non, ce n'est pas une caricature qui a été publiée dans WhatsApp. C'est un photomontage qui met le président dans une posture innommable. C'est des photos pornographiques qu'on a prises avec un homme, avec tous ses attributs, où on a pris la tête de cet homme-là, qu'on a monté avec la tête de président Macky Sall, et qu'on a distribué dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp. Nous avons eu le privilège de constater, avec le service de renseignement de sécurité qui s'occupe de cette affaire, inacceptable dans un pays musulman et dans un pays même où on doit respecter les droits de l'homme. Et le président mérite qu'on lui donne le respect qu'il fait à son rang.
Mais comment se fait-il que dans le traitement, les journaux sénégalais ne parlent que de caricatures, et j'ai même entendu sur une télévision locale des gens demander la libération de cette dame?
Voilà le mal de la presse sénégalaise aujourd'hui. Beaucoup de journalistes n'ont pas pris le temps de vérifier l'information, d'aller à la source pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tout le monde a parlé de caricature, alors que ce n'est pas de la caricature. Ça montre encore une fois la maladie de la presse sénégalaise aujourd'hui, où des gens ne vérifient aucune information, vont directement sur la base de rumeurs, écrire et parler sans pourtant aller à la source de l'information. La caricature qu'ils ont mise, c'est une caricature de Odia, caricaturiste dans des journaux. Le Sénégal a toujours fait des caricatures depuis le politicien de Mamadou Diallo jusqu'à présent. Aucun journaliste, aucun dessinateur n'a été convoqué à la police pour la caricature. Ce qui s'est passé, c'est un photomontage où on montre le président de la République Macky Sall avec des photos pornographiques manipulées et distribuées dans les réseaux sociaux. Dans tous les pays du monde, moralement, personne ne peut accepter qu'on traite une personne de cette façon, à fortiori le président de la République. Et j'ai demandé à beaucoup de mes confrères, mettez-vous à la place de Macky Sall et de ses enfants, si c'était votre père et votre maman qui a été traité ainsi, est-ce que vous l'auriez accepté?
D'autant que ces mêmes confrères ont vu, après les caricatures du prophète Mohammed et la suite qui a eu lieu avec le journal Charlie, il est parti lui-même à Paris dire « Je suis Charlie ».
Absolument. Ici, on ne peut pas parler de caricature. C'est un photomontage. Il y a une différence fondamentale entre des caricatures et des photomontages. Le photomontage, la volonté de nuire, elle est manifeste, elle a été faite, mise sur les réseaux sociaux. Les politiciens, en mal de popularité, se sont saisis de la question, en poussifère ensuite des radios, qui n'ont même pas eu le temps et la responsabilité de vérifier ce qu'ils disent. Aujourd'hui, quand la vraie information est sortie, la plupart d'entre eux ont rasé les murs.
C'était Alassane Samba Diop, directeur de Radio FM à Dakar.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Lionel Gaïmin, à la console Audrius Regis, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée avec Henri Francisque pour le bulletin de 18h en temps universel.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville,
sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.